Vous écoutez Sun FM.
Sun FM.
Première radio participative à votre écoute.
L'invité du jour sur Sun FM 83.
Aujourd'hui, une émission spéciale autour du Gits & Bom qui a croisé notre route il y a maintenant quelques années, pour laquelle j'ai eu le plaisir de collaborer récemment. Donc je suis très très honorée de vous recevoir aujourd'hui. Thierry Blondeau, à l'origine de ce guide, et Christian Baquet, qui y contribue depuis les débuts d'ailleurs. Et tous deux, en plus, vous avez plein d'activités annexes qui tournent autour et vous allez nous en parler. Mais on va commencer par l'histoire de ce guide, parce que c'est vrai qu'on le connaît, parce qu'on ne peut pas le louper. Il est un peu partout, bien au-delà des frontières varoises. Et puis finalement, on n'imagine pas tout le travail que ça a dû représenter derrière pour arriver à sortir quelque chose de gratuit et de cette qualité. Alors Thierry, tu nous en parles ?
Avec plaisir, puisque c'est pas mon métier, c'est un loisir passion. Et le début de l'histoire a démarré au pied de la Sainte-Baume, à Méhoun-les-Monrieux, puisque j'étais acteur touristique dans une chambre d'hôte. J'exploitais une chambre d'hôte et je me rendais compte qu'il y avait peu de synergie entre les acteurs. Et l'idée a commencé de me dire, tiens, ça serait bien de faire un support sur les acteurs sur ce territoire. Le parc n'existait pas encore, donc il n'y avait rien, en fait il n'existait quasiment rien. Donc on peut dire que le guide a été un peu un précurseur. Donc il a démarré avec 16 pages, je l'ai là, donc c'était vraiment presque une feuille de chou. Et puis donc ça a fonctionné, j'ai fonctionné tout seul avec une ou deux personnes pendant 2 ou 3 ans, et très vite je me suis rendu compte que c'était trop de travail. D'ailleurs, dans ce début, il y a eu Christian, en effet, puisqu'il a été présent dès la première édition avec un conte extrait de son livre « Contes et légendes » en Sainte-Baume. Et d'ailleurs, on ne s'est plus jamais quitté avec Christian. Je ne sais pas si on va se marier. Enfin, il faut qu'on en parle, d'ailleurs.
Il n'a pas l'air ravi, Christian. Il ne veut pas le mariage.
Non,
on ne se fait
pas que c'est, mais
voilà.
Le témoin, là. Et on peut dire qu'il y a eu un vrai développement. Que je suis formateur en fait de métier, et je travaille sur la force de l'équipe, et on peut dire que le vrai développement, il est né du travail d'équipe et de la richesse des femmes et des hommes qui nous aident. Et c'est là qu'on voit que cette pluralité, ce mixage d'expériences, de compétences, font que chacun donne son idée, chacun dit tiens, je peux écrire là-dessus, quelqu'un me dit bah tiens, il y aurait tel partenaire que tu pourrais rencontrer. Et en fait, c'est ce qui a vraiment, je crois, été un turbo pour le guide, et c'est ce qui a permis qu'il dure, en fait, puisqu'on va faire la 15e année cette année, et souvent ces supports ne durent pas toujours dans le temps, et je crois que c'est vraiment l'effet équipe qui a fait qu'il a duré dans le temps.
Équipe, et puis le fait que tu es extrêmement à l'écoute, puisque moi je sais qu'on parlait régulièrement, je te racontais ce que je faisais à côté, et spontanément tu prends des notes en fait, et on voit que tu es très très au fait de notre territoire, mais aussi très très intéressé. Je pense que c'est ça qui fait la différence, c'est que tu l'aimes et tu t'y intéresses à ce territoire.
Tout à fait. J'ai une sensibilité pour l'histoire du pays, l'histoire des femmes et des hommes, les charbonnières, les glacières, les forestiers, tous ceux qui étaient déjà là sur ces terres. C'est Christian qui raconte quand on fait le sentier merveilleux, qui dit tu vois là quand la terre est noire, et ben c'est que là il y avait des charbonnières. Voilà, ça me fait, j'allais dire, presque flipper, ou amande, tu vois, tu vois une sorte mur cylindrique, et ben là il y avait une glacière. Voilà, nous marchons sur un lieu qui est empreint d'histoire.
Et alors effectivement, Christian, moi j'ai eu la chance de lire ce livre de contes et légendes, qui est en fait la retranscription de contes et légendes orales normalement. Et là, le fait d'être passé à l'écrit, c'est un autre travail, ça reste tout aussi passionnant, mais c'est vrai que ça doit être un travail qui est différent. Comment on y parvient ?
Mais en fait, il faut des années pour laisser mûrir, vous le savez bien au niveau de l'orature, quelque chose qui est, enfin, une expression verbale, une expression d'improvisation souvent, hein, des idées qui viennent comme ça, et puis pour arriver un jour à les mettre en place en se disant il faut le transmettre, ça. C'est ce qu'on s'efforce de faire, surtout avec Thierry dans des animations, hein. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile, ça a été des soirées d'hiver, et en même temps un leitmotiv qui a été lorsque j'ai commencé à écrire des conférences, puisque j'ai commencé à écrire Contes et légendes dans Forêt de Sainte-Baume, c'était une conférence en fait. Et à partir de là, l'écriture est venue assez facilement. parce que bon, depuis mon enfance, j'écrivais un peu des poèmes, des choses comme ça. Et puis les contes sont venus se poser, voilà. Et des enfants m'ont souvent interpellé, c'est-à-dire que je faisais beaucoup d'animation en tant que forestier à la Sainte-Baume, animateur forestier. Et il y avait des enfants qui me disaient « Pourquoi cet arbre il est comme ça? Pourquoi il y a ça ?» Alors au début, c'est vrai que je me suis aperçu qu'en fait, les adultes et les enfants sont beaucoup plus intéressés par le rêve, quelque part. Ils viennent pas chercher, mettons, Quercus alba pour parler du chêne blanc. Et ça les intéresse, bien sûr, mais surtout, c'est l'histoire de ce chêne. On a besoin de rêves, et dans ces terres provençales, c'est formidable. Et vous le savez, hein, c'est vraiment toutes les collines, il n'y a pas d'endroit où il n'y a pas une légende, une histoire. Et à la Sainte-Baume, c'est vraiment le cas. On ne dit pas Sainte-Baume, Sainte-Grotte, il y a vraiment... Moi, je me suis régalé en venant là, bien avant d'être forestier dans ce lieu, d'être à l'Office national des forêts dans ce lieu. J'étais déjà passionné par ce lieu, parce que justement, il portait quelque chose dans la mythologie, bien avant le christianisme. Je me suis renseigné, j'ai écouté les vieux du village et tout, et au fur et à mesure, si bien qu'après, c'est venu évident. C'était évident de raconter des histoires, puisque j'en raconte depuis tout petit et je m'en raconte régulièrement.
Et dans cette 15e édition, quelle histoire vous allez nous raconter ?
Il y en a tellement.
Oh, dans le guide, vous en avez écrit beaucoup ?
Oui, il y en a quelques-unes dans le guide que je rattrape. Et en même temps, si vous voulez, chaque fois, il y a de nouvelles inspirations. C'est-à-dire que dans la 15e édition, je crois que je parle... Chaque fois, il y a l'histoire d'un arbre aussi. Mm. Et puis, en même temps, il y a des réflexions.
Le médecin
j'ai parlé du docteur Poussel, par exemple. Dans le Sentier Merveilleux, il y a l'histoire du docteur Poussel. Et c'est vrai que c'est... Les gens passent comme ça, ils voient juste une plaque en bronze sur un rocher, ils ne se doutent pas qu'effectivement il y avait un médecin qui était en même temps naturaliste et puis qui goûtait l'eau des sources. Enfin, il y a toute une histoire derrière ce personnage et moi j'ai rencontré même des personnes il y a très longtemps qui étaient déjà très âgées et qui venaient le célébrer une fois par an le 1er mai et ça m'est resté. Et vous voyez, c'est ça en fait, une histoire part de là. Et c'est important de parler de ces personnes parce qu'elles étaient là bien avant nous et elles ont expliqué pas mal de choses.
Et puis c'est aussi ça qui fait la richesse du guide, c'est que ce sont effectivement des choses qu'on n'imagine pas. Moi, chaque année, je le dévore, ce guide, parce qu'en fait, j'apprends. Alors quelquefois, j'ai la chance de déjà connaître les lieux, les personnes, parce que moi aussi, j'aime mon territoire. Mais bien souvent, j'apprends énormément. Et là, on aura le droit de le lire en avril, je crois, c'est ça ?
Tous les ans, il sort au mois d'avril. J'allais dire, en fonction de ce que vous disiez, on aurait pu l'appeler « Le saviez-vous ?» Hein, puisque, par exemple, quand on traverse le village d'Olière, on ne sait pas qu'il y a 1000 ans, c'était la cité des potiers. Voilà, donc il y a plein de choses à découvrir, un territoire très riche, et il y a une image qui m'était venue, c'était celle d'une malle sans fond. Et j'ai l'impression que depuis qu'on a créé ce guide, il n'y a jamais eu la question de se dire qu'est-ce qu'on va écrire l'année prochaine, puisqu'il y a toujours des choses qui arrivent, et on a l'impression que c'est vraiment... une richesse illimitée et qu'on pourrait dire des tas de choses. D'ailleurs, il y a beaucoup d'écrits qui existent. Je voulais aussi qu'on parle aussi de nos activités qui se sont développées autour. Christian parlait de nos sorties, mais on a développé depuis 2013 des sorties avec les étudiants. Et ça, c'est important puisque là aussi, Christian a employé le mot transmission et c'est transmettre. Alors, on n'a pas les mêmes parcours, et justement, c'est intéressant parce qu'on transmet des choses différentes, mais on croise nos parcours. Hein, puisque si moi je dis aux gens, bah, tiens, c'est bien de regarder la télé, de regarder un débat politique en coupant le son pour vous focaliser sur la gestuelle, bah, Christian va inviter les gens à regarder sans écouter ou à écouter sans voir. Donc, à reconnecter les gens à leur sens. Mais ça, c'est surtout le sujet de Christian. Et c'est vrai que je pense qu'on a une belle démarche avec les étudiants. Jusqu'à maintenant, on faisait un peu des styles des sorties de fin d'année. Et on a dit, maintenant, on ne veut plus que ce soit une sortie de fin d'année, on veut que ce soit intégré au cycle. Et cette année, on a fait une journée complète le 17 janvier avec 24 étudiants alternants en troisième année. Et on peut dire qu'ils ont été passionnés et que le débrief de fin de journée était extraordinaire. Voilà, ou eux qui sont hyper connectés, toujours sur leur téléphone toute la journée, eh bien, lors du débrief, plus personne n'était dans le téléphone, et ils étaient vraiment je veux pas dire perchés, mais ils étaient captés, enthousiasmés par cette journée dans la nature.
Et alors, c'est avec quelle école que vous faites ça ?
Alors, c'est avec EMD. EMD depuis 2013, École de Management et Développement Business School. On a eu l'occasion d'avoir une année des étudiants de CAGE et on a aussi accompagné des jeunes de la mission locale de l'Ouest Varois qui étaient dans un programme d'accompagnement et de retour à l'emploi. Donc on pense qu'on a vraiment une vraie action auprès des jeunes à développer.
Donc en fait, autour de cette journée-là, quel est l'objectif final ? C'est de se reconnecter à soi, à la nature, de prendre confiance en soi ? C'est comment ça, on la vit ? Parce que ça a l'air... Moi, j'ai vu quelques photos. On imagine très mal, en fait, ce que ça peut apporter. Et pourtant, on sait qu'il y a un réel apport.
Mais en fait, on est parti du principe qu'un espace naturel, c'est un écosystème, bien sûr, ça a été expliqué. Ça, c'est mon métier, technicien forestier. Et à partir de là, on essaie donc de transposer... un écosystème, dès qu'il y a un déséquilibre, dès qu'il y a un élément de l'écosystème qui est shunté, il y a un déséquilibre qui se crée. Nous, on a transposé un écosystème dans une société ou dans une entreprise en se disant qu'en fait, on ne peut pas, pour rééquilibrer une entreprise, parfois, il s'agit de venir, et c'est un ou deux éléments qu'on remet en place, on recrée un écosystème équilibré dans une entreprise. Et pour partir de là, on sait un peu, on a des références bien sûr, mais en même temps on a réfléchi notamment par rapport à Jung qui disait que c'est vrai que, et il disait ça, il est mort en 1961, et il disait ça dans les années 30, il expliquait qu'en fait notre monde a vraiment évolué, il parlait en 30, donc a évolué au niveau scientifique, au niveau humain et tout, au niveau industriel, mais qu'en fait, l'homme s'était désolidarisé complètement de la nature au fur et à mesure, et déjà, il expliquait en tant que médecin qu'il y avait déjà des problèmes, justement, d'équilibre de l'homme, parce qu'il s'était... En fait, on est né dans la nature, c'est ce qu'on explique aux gamins, hein, on leur dit, écoutez, vous êtes de là, en fait, vous êtes de la forêt, vous venez de là. Et ils sont complètement, souvent, ils sont déconnectés par rapport à leur vie de citadin et tout. Et effectivement, nous, c'est le but, donc, c'est de travailler. Moi, je suis professeur de yoga depuis 35 ans, d'ailleurs sur Saint-Maximin. Et si vous voulez, ça, on refait des exercices de respiration, on appelle aussi la marche afghane, c'est marcher en rythme respiratoire, on fait des mouvements tibétains, enfin, et en même temps, petit à petit, on les amène à explorer les cinq sens, et même au-delà d'aller dans le sixième sens, parler, moi ce que j'appelle rencontre de l'arbre, c'est les amener en fin de journée, hein, à rencontrer en fin de matinée ou journée, à rencontrer un arbre, à travailler beaucoup plus. Une fois qu'on a exacerbé les cinq sens, on peut exploiter son phénomène d'intuition, et en même temps, si vous voulez, il y a un reflet après, enfin, c'est un reflet sur le discernement après, lorsqu'on va dans la vie courante. Et tous ces mouvements, enfin, tous ces exercices sur les cinq sens, donc, sont souvent réappropriés après, sur place, par Thierry qui lui travaille là-dessus en management, c'est-à-dire on peut replacer par exemple, comme on expliquait tout à l'heure, le fait de regarder, à un moment donné, j'appelle ça le zen de la vue. On ouvre les yeux, puis on les ferme doucement, puis on réouvre les yeux, on essaye chaque fois de regarder les choses plutôt que les gens se parlent sans se regarder vraiment. Ça, c'est quelque chose qu'après, on va retrouver dans l'entreprise. Parce qu'on peut être intimidé, on regarde par terre et tout. Ça peut être dans la gestuelle. Tous ces mouvements, c'est anodin. C'est pas anodin parce qu'en fait, c'est des mouvements qu'on exprime et dans la nature, des sensations qu'on exprime dans la nature, pour après se les réapproprier pour les exploiter dans la vie courante. Dans la vie courante, dans l'entreprise et dans la vie intime, dans la vie de couple. Parce que effectivement, ça nous est arrivé des fois d'avoir des personnes qui disent « Oh, ben après, je vais pouvoir le faire, je reviendrai à la Sainte-Baume. » Souvent, à 80%, tous les jeunes avec qui on travaille nous disent « Oh, on a envie de revenir, on va revenir, tout ça. » On n'y a jamais été. Ils habitent à Marseille, ils sont à 30 km de la Sainte-Baume, ils n'étaient jamais venus à la Sainte-Baume. Et là, ils vont venir, pour certains, avec la famille et tout. C'est vraiment formidable. Vous voyez, c'est, si vous voulez, on a réussi à recréer ce système-là, cet écosystème. On pense que l'entreprise est un écosystème comme la nature. Pour essayer, je pense que c'est dans l'air du temps, le fondement de notre idée, parce qu'au fur et à mesure, ça a mûri comme ça, au fur et à mesure que l'on a travaillé, de se dire, tiens, mais on est en train, en fait, de rapprocher l'homme de la nature par rapport à ce que l'on fait, de l'amener à ce qu'il s'intègre petit à petit de l'entreprise à la nature, parce que tous ces jeunes-là vont devenir des DRH, vont devenir des managers, des gens qui sont, et qui, à un moment donné, vont peut-être réadapter leur vie, réadapter leur entreprise et avoir des gestes qui vont être beaucoup plus en communication avec la nature qu'elle ne l'est, qu'ils font actuellement, vous voyez.
Voilà. On imagine très très bien le bénéfice, effectivement. On a presque envie de les avoir comme chefs, eux.
Voilà.
C'est ça, on imagine...
De prôner la respiration, le yoga, la détente, et puis en même temps de dire, bon, et au lieu de... Tel bien, à midi, ce qu'on va faire, telle journée, ce week-end et tout, on va aller dans la nature, on va faire ce qu'ils appellent, au Japon aussi, un bain de forêt, si vous voulez, pour l'entreprise, ça peut être super, ça, vraiment.
Mais ça donne envie. Ça donne énormément envie, cette capacité que vous avez à fédérer dès la jeunesse, ça fait rêver. Et en parlant de fédérer d'ailleurs, parce qu'il y a eu énormément de guides, on va arriver au 15e, à tel point qu'on a tendance à oublier les articles qu'il y a eu avant, et pour ça on a eu une solution, vous l'avez trouvé, un best-of. On a le premier best-of qui est sorti et qui, on va pas dire le mieux parce que moi je trouve que tout est bien, mais peut-être ce qui interpelle le plus la Sainte-Baume, qui es-tu, d'où viens-tu, l'aventure du guide de 2008 à 2017, ce qui implique qu'on en aura un deuxième. Alors parlez-moi de ce premier best-of, pourquoi, et puis finalement qu'est-ce qu'on y retrouve, comment on fait un choix là-dedans?
Bon, l'idée c'était, puisque souvent les gens nous disaient, bah tiens, vous n'avez pas parlé de la glacière des Ancanaux, vous n'avez pas parlé de ci, de ça, et je disais, bah si, en 2010 on en a parlé, bah oui, en 2012, et finalement, bah, si les gens n'avaient pas toutes les éditions en main, parce qu'il y a des gens qui ont toute la collection. Vous savez qu'à l'Office du Tourisme, souvent les gens viennent prendre l'édition de l'année. Donc si les gens n'ont pas toutes les éditions, ils n'ont pas les articles anciens. Et du coup, on a voulu les répertorier à travers, en effet, ce best-of qui n'a pas de publicité. Donc il est à la vente, notamment à la boutique du Pèlerin face à l'hôtellerie au Plan d'Ops. Voilà, donc il y a pas. D'ailleurs, à propos de publicité, je voudrais pas qu'on termine cette interview sans remercier les partenaires annonceurs, quand même, sans qui ce guide n'existerait pas, puisqu'il faut payer l'infographie, il faut payer le papier, et c'est grâce à ces fidèles annonceurs que le guide existe. Et je dis fidèles parce que c'est vrai que quand on va les voir pour être présent, en général, il n'y a vraiment pas à insister. C'est presque comme si c'était évident pour eux de soutenir le guide et d'être présent dedans. Donc voilà, je tenais à dire un mot au sujet des partenaires annonceurs.
Et oui, parce qu'il ne faut pas oublier que si ce best-of est payant une somme modique compte tenu du travail et du temps, les autres sont totalement gratuits. Chaque année, on peut le récupérer gratuitement. Mmh. Et derrière, ça implique qu'il y a quand même une équipe qui travaille. Mmh. Alors, on est tous bénévoles, évidemment. Mmh. Mais n'empêche que c'est un travail qui est très très important. Il y en a combien là qui vont travailler sur la 15e édition par exemple?
Je préfère dire qu'il y a environ une vingtaine de personnes, plus de femmes que d'hommes. D'ailleurs, c'est amusant parce que Christian m'a largement parlé du féminin sacré, que ce massif c'était le massif du féminin sacré. C'est vraiment tout le monde met la main à la pâte, hein, on pourrait prendre cette image là. Et là pour l'année, pour 2015, pour 2022. Je sais pas, peut-être une vingtaine, je pense qu'il y a 15-20 personnes. Parce qu'il y a aussi des gens qui sont dans l'édition que pour cette année-là, qui vont faire un article. Donc, du coup, ils vont faire partie de l'équipe pour cette année. Mais il y en a qui sont un peu des piliers, ou beaucoup même, et qui participent depuis des années. Donc il y en a certains qui vont être présents juste pour une année, ou des fois, bah, du coup, comme une personne qui a commencé à mettre un jeu l'année dernière, du coup, il continue cette année. Voilà, c'est soit des passages éphémères, soit de la longue durée. C'est très variable comme participation. Il y a des gens qui sont que des distributeurs, enfin, j'aime pas trop le terme « que », mais qui sont distributeurs ou rédacteurs, d'autres qui sont distributeurs et rédacteurs. Donc, chacun fait ce qu'il a envie, à son rythme. Il y a vraiment une grande liberté de participation. Et je crois que c'est ça aussi qui fait le succès du maintien de cette équipe. On a fait une belle fête le 28 novembre là, avec presque 50 personnes. Voilà, c'était vraiment, vraiment très chouette pour justement aussi savoir se réinventer et savoir que faire du guide dans les années qui viennent. On fête les 15 ans, mais et après ? Comment, que doit devenir le guide ? Est-ce que ça doit être un grand jeu, de la découverte du territoire ? Et on a voulu laisser la parole à travers le principe du forum ouvert. On a voulu laisser la parole ouverte pour que chacun puisse donner ses idées et pas imposer, pas tracer une ligne, mais qu'on soit vraiment dans la créativité.
Et comme vous n'êtes jamais à court d'idées, il y a déjà un autre projet en cours, des balades comptées.
Oui, c'est vrai, on a commencé à mettre en place ce qu'on appelle un teaser là, sur les balades comptées. Et on espère, on a d'autres projets aussi, mais on espère que ça va pouvoir se mettre en place. Après, il faut trouver le temps. On a aussi un projet de conférences sur notre activité, sur la transposition des écosystèmes dans l'entreprise. Et c'est parce qu'en même temps, ça va jusqu'à la psychanalyse ce qu'on fait, parce qu'on a un peu avec Thierry, des amis psychanalystes ou autres, et on parle d'analyse. Par exemple, un écosystème, c'est aussi, on essaye de voir la systémique des choses, c'est-à-dire qu'en fait, dans une analyse systémique, en psychanalyse, on va étudier, il y a une personne qui va venir et va parler de ses problèmes. La systémique, qui a été mise au point, je pense, par les Canadiens, c'est d'étudier l'ensemble, c'est-à-dire que dans une famille, s'il y a une personne qui a des problèmes, ça va, si vous voulez, avoir un impact sur toute la famille. Et là, le but, ça va être, si vous voulez, dans cette systémique, de mettre en place une étude sur tout le système familial, sur toute la famille. Et effectivement, nous, c'est ce qu'on essaie de faire par rapport à une entreprise, par exemple, de transposer ces choses. Mais je pense que ça, c'est pour ça qu'on pense à faire des conférences là-dessus, et amener un peu de... Parce que ça nous semble assez novateur, amener ces nouvelles idées pour pouvoir les faire connaître, quoi, en même temps.
Oui, et puis on voit bien que c'est quand même dans l'air du temps, les entreprises sont à la recherche justement de solutions. Moi, j'ai travaillé, j'ai fait des articles sur le théâtre en entreprise pour essayer de libérer la parole, de diminuer les tensions. Voilà, on voit qu'il y a en ce moment une volonté quand même entrepreneuriale, patronale, de créer un certain climat plus agréable au sein de l'entreprise. Donc ça peut être la solution, évidemment, toute trouvée.
Il y a des solutions. Je pense que dans cette étude-là, ça peut faire partie des solutions. En tous les cas, c'est notre but. Ça va évoluer, de toute façon. Ça évolue tout le temps. C'est comme le guide.
Et alors, ça va être mis en place à peu près quand ? Parce que les gens, ils vont vouloir vous contacter pour le savoir.
Là, maintenant, on est en train d'y penser. Et ça, il y a juste à préparer les conférences et on va les mettre en place. Moi, j'ai un peu l'habitude, j'ai fait pas mal de conférences et avec Thierry. Là, ça sera à deux, comme ça, avec un paperboard, avec de la vidéoconférence, des images de nos animations. Et puis.
Et alors, ceux qui sont intéressés, il va falloir qu'ils vous trouvent. Où est-ce qu'ils vont venir vous chercher ?
Sur le guide, sur le site Guide Sainte-Baume, sur la page Facebook du Guide Sainte-Baume, où nous avons d'ailleurs depuis 3 mois maintenant, une rubrique acteurs d'ici, actrices d'ici, qui plaît bien, d'ailleurs souvent les gens la remarquent. Donc voilà, ça peut être via Facebook, via le site. On a aussi toujours nos mails et le téléphone sur le best-of ou sur les guides annuels, donc on est assez facilement joignable.
Et alors évidemment, parce que j'y reviens, mais ça m'intéresse, ces balades comptées, est-ce que ça va être du même acabit que votre livre en fait ? Est-ce qu'on va rêver autant que lorsqu'on lit votre livre ? Comment ça va se passer ?
En fait, l'idée de départ, c'était d'amener, si vous voulez, de filmer une partie, d'amener la Sainte-Baume à des personnes qui ne peuvent pas y accéder. Moi, j'ai toujours été à la fois, comment dire, touché, on en a parlé souvent aussi avec Thierry, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent à la Sainte-Baume qui sont trop âgés, qui ne peuvent pas monter. Pour moi, c'était, ils ne peuvent pas aller à la grotte. Et souvent, on évoquait ça en disant... C'est vraiment dommage, mais si on commence à faire des navettes pour monter à la grotte, c'est foutu pour la nature et tout. Par contre, ce qu'on peut faire, nous, le but, c'est d'arriver à raconter ces histoires, d'autres histoires aussi, hein, d'aller dans la Sainte-Baume, de leur conter la Sainte-Baume, de faire des images de la Sainte-Baume et après les amener, par exemple, dans des maisons de retraite ou les amener à des personnes. C'est pas pour faire concurrence à Faut pas rêver ou d'autres émissions comme ça, mais c'est simplement pour amener des petits quarts d'heure de rêve comme ça, entre comme filmés comme ça, sous forme, alors on sait pas trop, sous forme, on a, peut-être Thierry là-dessus, il est plus à même d'en parler pour, sur Facebook ou autre, avec des, d'autres, des moyens actuels quoi, de communication.
Déjà, donc sur la page Facebook, il y a le teaser de 2 minutes, donc on peut déjà en 2 minutes avoir un aperçu de ce que seraient ces balades comptées. En effet, l'idée, c'est que ce soit des séquences relativement courtes, enfin de 15 à 30 minutes peut-être, et ça peut pourquoi pas aussi les hôpitaux, enfin toutes les personnes qui veulent s'aérer l'esprit ou plus que ça, et se nourrir de la spiritualité du lieu. Par un homme du, par le jardinier de Marie-Madeleine, qui est Christian, ouais. C'était le nom qu'on lui a donné, à juste titre. Voilà, donc on pense que c'est une noble et belle idée que de développer ce projet.
Ben effectivement, moi ce que je vais retenir de cette émission, c'est toute la bienveillance qu'il y a derrière chacune de vos actions, toute la volonté d'aider avec tout votre savoir-faire, parce qu'il est immense, mine de rien. Et puis aussi tout l'amour que vous portez à ce territoire, qui est le nôtre aussi, parce qu'on est aussi d'ici. Et ça fait du bien de voir à quel point on peut être attaché au territoire, aux acteurs du territoire, à tous ceux qui sont là. Et puis on va surtout beaucoup apprendre, quels que soient les moyens, toutes les choses dont vous avez parlé, que ce soit le guide, les balades, les conférences, il y a toujours une richesse, un savoir qui va s'en dégager. Alors on est très très pressé de voir ça plus avant. Et puis moi j'ai très très envie de voir ces vidéos. Et puis alors de voir, bon j'ai beaucoup de chance, moi je travaille qu'avec Laurence. Mais cette histoire d'entreprise, je pense que c'est révolutionnaire. Vraiment.
Merci
beaucoup d'être venu nous en parler, en tout cas.
Merci à vous de nous avoir reçus.
Mais avec grand plaisir. Et puis, on vous souhaite une bonne continuation, parce qu'avec autant de projets, je pense que vous allez être bien occupés.
On est pas mal occupés.
Merci beaucoup.
Merci.
L'invité du jour à réécouter en podcast sur Sun FM 83.
Vous écoutez Sun FM.
Sun FM.
Première radio participative à votre écoute.